Il est assez dur, ce chant. Et je ne parle pas de la mélodie, je ne parle pas des notes, je parle des paroles. J'espère que vous réfléchissez à ce que vous chantez, que ce n'est pas juste comme ça, parce que ce chant, si on y pense vraiment, il est lourd. On donne tout à Dieu, à tes pieds, ô divin maître, parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Quand on y réfléchit, ce n'est pas rien. Et j'espère que c'est dans cette optique que vous êtes. Nous serons ce matin dans le livre de Josué. Le livre de Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24. Vous savez, la semaine dernière, nous avons entamé une série d'études dans l'évangile de Jean, à la découverte de Jésus. Et saviez-vous que Josué, en fait, veut dire « l'Éternel est mon salut ». Donc, il y a ce lien avec le salut. Jésus et tout. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai choisi ce passage. Mais n'ayez crainte, cette étude sur la vie de Jésus, à la découverte de Jésus, on va reprendre la semaine prochaine. Donc, de temps en temps, il y aura des dimanches comme celui-ci, où on verra d'autres passages, on va dire, peut-être un peu plus pratiques, un peu plus terre-à-terre. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le livre de Josué. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous reprenons notre étude dans l'évangile de Jean. Josué 24. Alors, Josué, un personnage remarquable. Lorsqu'on y pense, c'est quelqu'un, malgré des difficultés, malgré le lourd fardeau, la grande tâche de diriger ce peuple. Au début de ce livre, Josué va entendre les pires paroles qu'il aurait pu entendre. Le peuple va lui dire, mais Josué, comme nous avons obéi à Moïse, nous t'obéirons. Et là, Josué a dû se dire, aïe. Parce qu'est-ce que le peuple a obéi à Moïse? Ah non, du tout. Le peuple était rebelle. Le peuple, un peu comme les Français, râlait. Le peuple était incrédule. Et là, Josué a dû se dire, alors là, si le peuple m'obéit moins, comme ils ont obéi à Moïse, je suis mal. Et ça, c'était tout au début, c'était juste avant l'entrée dans la terre promise. Et pourtant, Dieu a été avec Josué, nous le savons. Et à travers toutes ces années de la conquête de la terre promise, Josué a su, par la grâce de Dieu, encadrer ce peuple et les aider à entrer en possession de la terre promise. C'est vraiment un personnage remarquable. Et vous savez, dans l'histoire, par moment, il y a des personnages comme ça. On peut penser des hommes, des femmes qui sortent un peu du lot. Je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que c'était cette semaine, j'ai vu passer l'info rapidement, l'acteur Burt Reynolds est mort. Et bon, ce n'était pas trop de ma génération, mais je vois qui c'est. Il a joué dans pas mal de films, dans pas mal de séries télé. Apparemment, c'était quelqu'un qui était assez apprécié et tout. Il est mort, il avait 80 et quelques ans, si je me souviens. Et voilà, il est mort. Ok, bon, ça nous arrive à tous, la mort, sauf si Dieu revient, si Jésus revient avant, la mort va nous arriver à tous. Il lui est arrivé la mort, rien d'exceptionnel. Mais c'est surtout à sa vie qu'on pense et on se dit, voilà, quelqu'un d'extraordinaire. Il y a 2 semaines, un sénateur aux États-Unis, John McCain, est mort. Et là, on a fait tout un grand éloge. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Apparemment, un homme remarquable. On peut penser aussi, citer des femmes remarquables comme ma mère. Non, je plaisante. Quand même, elle est remarquable, mais ça, c'est au niveau personnel. Mais vous pouvez tous penser à des personnes vraiment remarquables dans votre vie. Et lorsqu'on pense à ces personnes, on se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais, moi aussi, être reconnu, qu'on se souvienne de moi, comme quelqu'un de remarquable. Et saviez-vous, cela est possible pour un homme, femme, jeune, moins jeune. Cela est possible. Et finalement, Josué, à travers ce chapitre 24, va nous montrer 4 principes pour nous mettre sur la bonne voie, d'être quelqu'un de remarquable, pas forcément aux yeux des hommes. À notre mort, peut-être on ne passera pas à la télé en disant ah, un tel ou tel est mort. Mais aux yeux de Dieu, on peut l'être. Alors, qu'il soit dit tout de suite, et c'est un thème sur lequel nous allons revenir à plusieurs reprises ce matin, la toute première chose, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Si on n'a pas de relation avec Dieu, on ne peut pas être remarquable. Impossible. On aura quelques gloires dans cette vie, mais rien de plus. La première chose, c'est une relation avec Dieu. C'est d'être sauvé, d'avoir placé sa confiance, sa foi en Dieu à un moment donné pour le salut. Mais si nous avons fait cela, eh bien, voici quatre principes que Josué va nous montrer à travers ce passage, donc de Josué 24. Regardez le verset 1, parce que c'est là où nous trouvons le premier principe. Josué chapitre 24, verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Alors, ici, Josué est un peu à la fin de sa vie. On le voit à la fin de ce chapitre. En fait, Josué meurt ici. Et il appelle, il convoque tout Israël à Sichem. Sichem, c'était là où se trouvait l'Arche de l'Alliance à cette époque. C'est là où les grandes rencontres se faisaient. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Le verset 1 continue. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, tout le monde. Okay? Tout le monde est là. Et ils se présentèrent devant Dieu. Le premier principe que Josué montre ici, c'est qu'il rassemble autour de Dieu. Vous savez, on peut se rassembler, se retrouver tous ensemble pour mille et une raisons. On est le 9 septembre aujourd'hui, il y a presque 2 mois, la France, presque la France entière s'est rassemblée pour un grand événement. C'est la Coupe du Monde. Et la mi-juillet, la France entière s'est rassemblée pour des hommes qui couraient derrière un petit ballon en plastique. Des millions de personnes. Vous vous rendez compte? C'est assez fou quand on y pense. Okay? Alors, moi, le premier à dire, j'ai apprécié. On a regardé le final avec quelques personnes de l'église et je peux vous dire, j'ai apprécié et tout. Mais quand on réfléchit, on se dit, mais on s'est rassemblés pour du jeu. Finalement. Okay? Entendez-moi bien, rien de mal en soi. Okay? On a passé de bons moments ensemble, on n'est pas allé dans le débordement, tout s'est bien passé. Mais voilà, c'était un événement sportif. Okay? On peut se rassembler, comme les Français aiment bien, autour des repas. Okay? Qu'est-ce que j'apprécie la France pour cela? On se rassemble autour de la nourriture. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Rien de mauvais. Continuez de manger. Hein? Okay? Mais qu'est-ce qui distingue quelqu'un de remarquable? Se rassembler autour des événements sportifs, se rassembler autour de la table, se rassembler autour de telle ou telle chose, réunion politique, réunion quelconque. Non, c'est se rassembler autour de Dieu. Lorsque nous nous rassemblons, de quoi parlons-nous? Se poser la question. Du sport? Rien de mal avec cela. Hein? Quand c'est d'actualité, pourquoi pas? Des voitures, comme moi, j'aime bien en parler. De la nourriture? De mille et une choses? De son travail? Peut-être tout simplement des épreuves, des soucis, des mauvais temps, des bons temps? Ou est-ce que lorsque nous nous rassemblons, c'est autour de Dieu. Est-ce que lorsque nous nous retrouvons ensemble, est-ce qu'on se cite des versets? Est-ce qu'on parle des principes bibliques? Est-ce qu'on rappelle qui est Dieu? Est-ce que Dieu, il est au centre, quelque part? Donc, lorsque nous nous rassemblons, Dieu doit être là. De toutes les façons, il est là, il est partout. Mais est-ce que nous reconnaissons sa présence? Josué, ici, il va convoquer toute la nation d'Israël. Et c'est dans le but de se présenter devant Dieu. Et voilà pourquoi Josué nous montre qu'il est cet homme remarquable. Et aujourd'hui, ben, nous qui sommes dans la salle, ben, nous sommes venus ensemble, j'espère, ma prière, c'est que nous sommes venus ensemble, non pas par routine, non pas parce que ben, c'est le dimanche matin, alors il faut que j'aille à l'église, voilà, c'est le jour où on fait ça, mais j'espère qu'on est venu aujourd'hui parce que ben, on va devant Dieu. Notre frère Luc, tout à l'heure, au début de la présidence, disait, ben, nous sommes dans la maison de Dieu. Et cela est vrai. Non pas que Dieu soit limité aux quatre murs de ce bâtiment, c'est pas ça, mais voilà, Dieu est avec nous. Nous sommes ensemble autour de Dieu. Et nous, dans notre vie, cela doit nous caractériser. Dans notre famille, c'est là où ça doit commencer. Autour de la table, justement, quand on va manger, ben, on prie. C'est vrai, mais est-ce que c'est simplement par routine ou c'est parce que nous sommes réellement reconnaissants pour ce que Dieu pourvoit? Lorsque nous sommes sur le canapé le soir, bah, c'est facile d'allumer la télé, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce serait peut-être pas plutôt mieux de prier ensemble, de lire la Bible ensemble, de se rassembler non pas autour de cette boîte magique qui est la télé ou derrière un écran d'ordinateur, mais plutôt autour de Dieu? Quelques pistes de réflexion pour vous. Josué nous montre qu'il est vraiment remarquable parce qu'il va convoquer, il va appeler tout le monde ensemble autour de Dieu. Il se présente devant Dieu. Mais ce n'est pas la seule chose, parce que se rassembler autour de Dieu, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça s'arrête là, puisque à partir de verset 2, Josué va nous montrer qu'il est remarquable parce qu'il rappelle les œuvres de Dieu. Alors, regardez ceci. Ah, suivez avec moi, je vais lire du verset 2 jusqu'au verset 13. C'est un peu long, mais vous allez comprendre pourquoi on lit ce passage. À partir de verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisais dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éthiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et que vous servent de nourriture. Josué, ici, dans ces quelques versets, fait tout un historique depuis Abraham et son père, donc ici Térakh, père d'Abraham, jusqu'au jour de Josué. C'est une période de plusieurs centaines d'années. Et il montre qu'il y avait des obstacles, mais qu'à chaque fois, Dieu intervenait. Qu'à chaque fois, Dieu était là et que Dieu était à l'œuvre. Josué fait toute cette historique pour montrer que Dieu est à l'œuvre. Et il fallait rappeler cela au peuple. Parce qu'avec le temps, vous savez, il est facile d'oublier. Il est facile de dire, oh, finalement, c'était mieux avant, ou voilà, les choses du passé ne s'appliquent plus, on peut faire toutes sortes d'excuses, et au jour d'aujourd'hui, on peut dire, ça ne vaut plus la peine. Aujourd'hui, devant telle ou telle difficulté, devant tel ou tel choix, devant tel ou tel obstacle, qu'est-ce que moi je peux faire? Et Josué, sachant que le peuple avait besoin de ce rappel, que le peuple pouvait oublier, il fait cet historique en disant, mais regardez, il y avait tous ces obstacles. Il y avait le temps, il y avait la distance, il y avait des ennemis. Et à chaque fois, Dieu a délivré, à chaque fois Dieu a conduit, à chaque fois Dieu a pourvu. Regardez ce que Dieu a fait. Le peuple avait besoin de ce rappel et Josué était capable de rappeler. Alors, Josué s'en souvenait. Et sûrement parce que lui, il repassait cela souvent dans sa mémoire. Il avait vécu pas mal de ces choses depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce jour. Et Josué, pour éviter que le peuple oublie, et nous savons combien le peuple était oublieux, pour les aider à ne pas oublier, Josué leur rappelle les œuvres de Dieu. Et il est bon, de temps en temps, pour nous, pour montrer que, justement, nous sommes remarquables, par la grâce de Dieu, de faire ces rappels. De dire oui, Dieu est intervenu là, que Dieu a aidé là, que Dieu m'a dirigé, Dieu m'a donné la sagesse là. Et si jamais vous ne pouvez pas faire cela, si jamais la réflexion vient dans votre esprit, je ne vois pas ce que Dieu a fait pour moi, je ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi, c'est parce que vous ne prêtez pas attention, parce que Dieu est à l'œuvre. Parfois c'est un peu plus difficile à voir comment il fait, mais Dieu est toujours à l'œuvre. Et si on ne le voit pas, c'est parce qu'on ne prête pas attention. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas à l'œuvre. Ici, Josué rappelle les œuvres de Dieu. J'ai un ami qui, toute l'année, écrit dans un cahier toutes les bénédictions, toutes les choses pour lesquelles cette personne est reconnaissante de la part de Dieu. Et en fin d'année, cette personne prend ce cahier, commence du début et relit. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Cette personne note toutes les bénédictions, toutes les réponses à la prière, toutes les fois où Dieu a pourvu, dirigé. Et puis, à la fin de l'année, revient sur toutes ces choses. Et c'est une bonne habitude de dire, voilà, Dieu a fait ceci. Dieu a pourvu là, telle ou telle date, telle ou telle situation, à travers telle ou telle personne. Dieu a sauvé. Dieu a pourvu. Dieu a dirigé. C'est ce que Josué, ici, fait avec le peuple. Il rappelle les œuvres de Dieu. C'est quand la dernière fois que nous avons fait une liste de toutes les bénédictions que Dieu nous a donné dans la semaine. C'est peut-être une bonne habitude à commencer aujourd'hui. On démarre une nouvelle semaine, et là, faites l'expérience. Vous notez, on a un petit cahier, même une simple feuille de papier, et vous notez toutes les bénédictions à travers la semaine. Et puis, dimanche prochain, vous prenez cette liste et vous la relisez. Et là, cela vous encourage, cela peut encourager d'autres. Et par là, Dieu manifeste à travers vous que vous êtes remarquable à ses yeux. Alors, quelqu'un de remarquable rassemble autour de Dieu, rappelle les œuvres de Dieu, mais également les versets 14 jusqu'au verset 23. Quelqu'un de remarquable condamne le péché. Alors, regardez verset 14. Après avoir fait cet historique, Josué va dire, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Regardez verset 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. À chaque fois que je lis ce passage, je suis frappé. Je n'en reviens pas. Parce qu'il y avait encore des idoles au milieu d'Israël. Et je me pose la question, mais comment est-ce possible? Des idoles, après tout ce que Dieu a fait, après toutes les œuvres qu'il a manifestées, le peuple se permet encore, à l'époque de Josué, à retenir des idoles. C'est peut-être pas eux qui les ont fabriquées. Là, Josué nous laisse entendre que, en fait, ce sont des idoles des nations du pays de Canaan. Mais Israël s'est dit, tiens, voilà, ces peuples, ils ont ces idoles, ces statues, bah, on va les garder. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais le peuple de Dieu, quand même, qui connaît le vrai Dieu, qui a vu toutes ses œuvres, qui a vu les miracles, et là, se permet quand même d'avoir encore des idoles. Non, mais quelle honte pour eux! C'est pas possible! Et c'est là où on regarde notre propre vie et on se dit, ma honte à nous. Parce que sommes-nous parfaits? Permettons-nous parfois à des idoles, c'est-à-dire n'importe quoi qui prend la place de Dieu, de survenir dans notre vie? Je crois que la réponse est oui. Ici, Josué reconnaît que des idoles étaient un problème. Et il n'hésite pas à condamner ce péché. Parce que l'idolâtrie, c'est un péché, bien sûr. Mais n'importe quel péché doit être condamné. Josué, maintenant, à la fin de sa vie, ne se dit pas, bon, il n'y a plus grand-chose que moi je puisse faire. C'est vrai, il y a ces idoles ici, mais ce peuple, il est tellement désobéissant, ce peuple, il est tellement dur que, à quoi bon de leur donner encore un avertissement? Ça ne servira à rien, alors laissons-les faire de toutes les façons. Ils vont répondre devant Dieu pour ça. Non, Josué dit, enlevez, ôtez, débarrassez-vous de ça. Faites le ménage. Et tout comme Josué, nous devons condamner le péché, déjà dans notre propre vie. Comme cette expression française de balayer devant sa propre porte. Il faut. Le Saint-Esprit dont nous avons parlé en première partie ce matin, nous aide avec cela. Met le droit sur des choses. Lorsque nous péchons, le Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquille, et c'est normal. Il y a cette culpabilité qui vient dans notre esprit et puis cela est juste afin que nous en repentions. Mais le péché doit être condamné. Malheureusement, parce que nous insistons tellement sur la grâce de Dieu, que Dieu pardonne, ce qui est tout à fait vrai, parfois il est possible de se faire un peu un Dieu arrangeant qui, oui, est en colère un peu, qui n'est pas trop content avec le péché. Mais bon, voilà, il sait de quoi nous sommes faits, il connaît qu'on est poussière, on est faible, donc Dieu comprendra. Non, c'est faux. Dieu déteste le péché, Dieu est le péché, et c'est à cause du péché que les gens vont en enfer et vont passer l'éternité loin de Dieu. Et nous permettrions le péché de subsister dans notre vie, honte à nous. Lorsque nous permettons le péché de subsister volontairement dans notre vie, nous sommes condamnables devant Dieu et nous sommes tellement loin d'être remarquables. Par contre, par la grâce de Dieu, nous avons la possibilité de condamner le péché dans notre vie. Tout n'est pas perdu. Nous avons la possibilité de surmonter le péché. Lorsque nous confessons notre péché, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Aucun péché n'est trop grave. Aucun péché, on peut le faire trop de fois, non plus. Mais il faut s'en repentir. Dans notre propre vie, c'est là où ça doit commencer. Mais également, pour des gens qui sont sous notre responsabilité, et là je parle notamment aux parents, de condamner le péché. Les enfants, on les aime, la plupart du temps. Alors, parfois, quand ils sont désobéissants, c'est beaucoup plus dur de les aimer, d'après ce qu'on me dit. Et je comprends. Mais lorsque un enfant est dans le péché, que ce soit la désobéissance, que ce soit la négligence, que ce soit la rébellion, que ce soit un péché ouvert ou péché caché, bah, ce péché doit être condamné. Ne pas condamner le péché n'est pas un signe d'amour. Selon le livre des Proverbes, en fait, c'est une preuve qu'on n'aime pas son enfant, justement, si on ne condamne pas le péché dans sa vie. Condamner le péché dans la vie de ceux qui sont sous notre responsabilité est tout à fait nécessaire. Et lorsque nous condamnons le péché, nous nous alignons sur la parole de Dieu, nous suivons l'exemple de Josué, et là, nous sommes remarquables. Parce qu'on va se souvenir de quelqu'un qui nous dit bah, « telle ou telle chose n'est pas en règle ». Quelqu'un qui nous dit toujours « tout va bien, rien n'a changé, restez comme vous êtes et tout », ça, c'est pas remarquable. Ça, c'est quelque chose qu'on veut entendre, n'est-ce pas? Bah, ne changez rien, vous êtes parfait comme vous êtes. Okay? Si jamais quelqu'un vous dit cela, sachez que bah, cette personne ne veut pas votre bien. Parce que quelqu'un qui est remarquable est quelqu'un qui va, avec amour, bien sûr, c'est quelqu'un qui va relever ce qui ne va pas et qui, pour notre bien, va nous dire ce qui ne va pas et surtout comment le changer. Et ici, Josué, il fait pareil. Il condamne le péché. Ôtez ces dieux, ces faux dieux. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte. Ôtez les dieux étrangers. Josué sera dans ce sens. Et nous, qu'en est-il? On n'aime pas condamner. Mais la Bible nous dit, il faut, le péché est tellement grave, il doit disparaître. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons. Mais également, vous l'avez peut-être relevé, quatrième principe, alors tout premier, quelqu'un de remarquable rassemble autour de Dieu. Il rappelle les œuvres de Dieu. Il condamne le péché, mais également, il incite à servir Dieu. Verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Et verset 24 jusqu'au verset 28. Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Josué, parce qu'il était un homme remarquable, incite le peuple à servir Dieu. Bien sûr, il leur montrait ce qui n'allait pas. Il condamne le péché, fait disparaître ses dieux, mais à la place, il dit, au lieu de servir ses faux dieux, servez l'Éternel. Et on peut comprendre que tout le peuple ensemble, ils entendent Josué, ils comprennent que leurs faux dieux doivent disparaître, ils s'en débarrassent, peut-être ils les brûlent, peut-être ils les jettent dans le fleuve, on ne sait pas exactement ce qu'ils font avec, mais ils vont les enlever. Et on peut comprendre que tous ensemble, ils sont dans la joie, ils se disent « Oui, on va servir Dieu » et ils prennent ces décisions et gloire à Dieu. Et je me demande si ce n'est pas un peu comme cela pour nous, soit le dimanche ou peut-être à d'autres moments où nous sommes ensemble et puis nous sommes encouragés, nous entendons un passage, des versets, on entend une prédication et tous ensemble, on se dit « Oui, allons de l'avant, gloire à Dieu, Amen !» Là, verset 28, Josué renvoie tout le monde. Tout le monde repart chez lui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est bien beau lorsqu'on est tous ensemble, de nous encourager mutuellement. On est plus fort lorsque nous sommes ensemble, gloire à Dieu, et ça doit être le cas, et nous devons continuer comme cela, mais lorsque nous repartons, lorsque nous sommes renvoyés chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous disons, ah, qu'est-ce que c'était bien lorsqu'on était ensemble? Ah, qu'est-ce que j'aimerais de nouveau qu'on soit ensemble et tout, mais maintenant que je suis chez moi, bon, je ne peux pas faire grand-chose. Non. Cet encouragement, cet engagement que nous avons lorsque nous sommes ensemble, de dire, nous servirons l'Éternel, nous servirons Dieu. Nous devons apporter cela lorsque nous partons. Bien sûr, c'est plus facile lorsque nous sommes tous ensemble de prendre cet engagement, de continuer et tout. Mais même si c'est difficile lorsque nous repartons, ben, il faut. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons. Et nous revenons sur le verset 15, parce que c'est là où nous trouvons cette phrase qui est parfois affichée dans les maisons, qui est surtout des maisons des chrétiens. Où, verset 15, Josué va dire ceci, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Josué dit, faites un choix. Choisissez qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit, ben, vous faites un choix. Mais peu importe le choix que vous faites, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et par cela, Josué nous montre que lorsque nous sommes tous ensemble, nous devons nous inciter à servir Dieu, à aller de l'avant. Mais c'est tout aussi important lorsque nous repartons chez nous, lorsque dans la semaine, nous sommes chez nous, lorsque nous sommes au travail, lorsque peut-être nous sommes tout seuls. Il est tout aussi important à ce moment-là de nous souvenir que nous devons servir Dieu. Cette vie, elle n'est pas pour nous, quelque part. Notre frère Luc, tout à l'heure, nous a lu ce passage dans Éphésiens 1. Bah, pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Même pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés? Pour célébrer la louange de sa gloire. Pour servir à glorifier Dieu. Et nous faisons cela en servant Dieu. Et lorsque nous nous incitons à servir Dieu, ben là, nous sommes remarquables. J'entends, et je le dis même par moment, la France est un pays dur en ce qui concerne l'évangélisation. Et cela est vrai. Les Français sont méfiants, les Français sont indifférents, les Français, pour parler de beaucoup, ne veulent pas qu'on les dérange avec ces questions de religion et tout. Mais cela ne devrait pas nous arrêter lorsque nous allons évangéliser. Cela ne devrait pas nous faire baisser les bras en disant, ben, on évangélise, on apporte la parole, mais de toutes les façons, on sait que très peu vont croire et tout. Non. Parce que la France est un pays dur, il devrait y avoir plus de chrétiens qui travaillent. Et lorsque nous nous incitons à servir Dieu, oui, dans l'évangélisation, dans les partages familiaux, ce matin j'ai parlé du ménage ici à l'église, bah, prendre soin de ce bâtiment, c'est un moyen de servir Dieu. Passer un coup de fil à quelqu'un qu'on sait passe par un moment difficile ou qui a des problèmes, ou tout simplement pour prendre des nouvelles. Notre frère Olivier est à Lyon. L'avez-vous appelé depuis qu'il est parti? Il y a des besoins matériaux, financiers. Il y a des besoins émotionnels. Notre frère Patrick, sa femme, est partie depuis... Et comprenez bien, elle est en Martinique. Hein, elle revient très bientôt. Alors, je crois que tout le monde comprend, mais bon, juste pour que ce soit clair. Notre frère Patrick se retrouve seul depuis un certain temps. Et vous lui demandez comment il va? Je pourrais multiplier des exemples. J'aurais peut-être même pas dû commencer. Parce qu'il y a tellement de besoins, tellement de façons. Et qu'est-ce que nous faisons ? Le mardi soir, est-ce que nous sommes là pour prier ? Le samedi matin, pour la réunion de prière d'hommes, est-ce qu'on est là ? Samedi après-midi, une fois par mois, la réunion de dames. Est-ce qu'on est là ? Des dames ? À droite et à gauche, est-ce que nous sommes en train de servir Dieu ou est-ce que ça c'est juste une arrière-pensée ? Quelque chose, ah oui, c'est vrai, ce serait bien si peut-être je faisais ça. Ou est-ce que c'est vraiment au-devant de notre pensée ? Pour Josué, même si d'autres ne le faisaient pas, même s'il y avait des obstacles, même si c'était dur, même si personne d'autre ne comprenait, il avait pris cette résolution de servir Dieu. Et puis d'inciter d'autres à le faire. Et lorsque, dans notre vie, on se demande « mais qu'est-ce que je dois faire ?» La réponse à cette question doit toujours être « servir Dieu là où je suis ». Ça prendra différentes formes, bien sûr. On ne fait pas tous exactement la même chose. Mais servir Dieu doit être au-devant de mes pensées. Alors, est-ce que je suis quelqu'un de remarquable ? Ben, est-ce que je rassemble autour de Dieu ? Quand les gens me fréquentent, est-ce qu'ils repartent encouragés par Dieu ? Est-ce que je rappelle les œuvres de Dieu ? Ou est-ce que j'ai tendance à oublier ? Est-ce que je condamne le péché ? Ou est-ce que je dis que ce n'est pas trop grave ? Est-ce que j'incite à servir Dieu ? Ou est-ce que je reste plutôt dans l'indifférence face à ce que Dieu est en train d'accomplir ? Depuis littéralement des centaines, voire des milliers d'années, parce que Josué, lui, il a vécu il y a 3300, 3400 ans. Et on en parle encore aujourd'hui. Il a été quelqu'un de remarquable. Mais nous pouvons l'être aussi. Par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui lui a rendu capable de faire toutes ces choses. Alors toute la gloire revient à Dieu. Mais il faut être prêt, il faut se mettre à disposition de Dieu, il faut prendre cette décision de dire oui, Dieu, voilà, je veux être remarquable pour toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Sommes-nous prêts à prendre cette décision et puis de renouveler tous les jours, de continuer de persévérer ? Je prie que oui, moi je veux, j'ai encore du travail à faire. Ne croyez jamais que des pasteurs soient des chrétiens parfaits ou supérieurs. Non, ils sont des chrétiens tout à fait normaux, comme chacun. Nous avons besoin de prière, vous avez besoin de prière, et dans la prière, nous pouvons prendre cet engagement devant Dieu. Et c'est ce que nous allons faire, prendre quelques instants dans la prière pour nous remettre en question devant Dieu, dans la prière, dans le silence, et après quelques instants, je prierai pour terminer. Oui, Seigneur, tu vois toutes choses, rien n'est caché à tes yeux. Tu nous vois tels que nous sommes. Tu sais ce que tu attends de nous. Tu connais l'état de notre cœur. Nous demandons ton aide pour pouvoir agir comme Josué, pour pouvoir avoir un impact autour de nous, pour être remarquable pour toi. Que tu puisses te servir de nous, Seigneur, que nous ayons un impact de plus en plus grand autour de nous. Et parce que c'est toi qui l'auras fait, parce que ce sera évident que toute la gloire puisse te revenir. Tu le mérites, tu en es digne, Seigneur, parce que tu es le grand Dieu, tu es celui pour lequel rien n'est impossible. Même dans notre faiblesse, tu nous secours, tu nous relèves, tu peux nous rendre forts. C'est ce que nous demandons, que tu nous aides aujourd'hui, demain, chaque jour de cette semaine, à garder les yeux fixés sur toi, d'être soumis à toi, et que toute la gloire te revienne. C'est en ton nom que nous prions. Amen.